Et il est 7h, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le verdict de l'attentat manqué de Notre-Dame, 30 et 25 ans de prison à l'encontre des deux protagonistes, premier commando de femmes djihadistes en France. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Une évasion hier soir à la prison des Beaumetres. Quatre détenus ont réussi à prendre la fuite. Ils sont menottés deux par deux. L'impossible unanimité au sein de l'Union européenne pour imposer un embargo sur les ventes d'armes à la Turquie. Un partout hier soir au Stade de France entre la France et la Turquie. Un match sous très haute surveillance et pas d'incident majeur. L'étrange calendrier de manifestation des anti-PMA pour toutes. Trop sollicités, pas assez nombreux. Les pompiers manifestent aujourd'hui à Paris. Et puis Clotilde Hess met Stallone sur la scène du 104 à Paris.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Et voilà, c'est reparti. Le voile se réinvite dans le débat public, divise les ministres publiquement et entraîne une surenchère de réactions au Rassemblement National. Et la gauche elle dit quoi? Pas grand chose pour l'instant. Parole ce matin à la sénatrice PS Laurence Rossignol, ex-ministre des Familles et des Droits des Femmes.
À tout à l'heure Léa, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le député MoDem des Hauts-de-Seine, Jean-Louis Bourlange au micro d'Inter. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Les mots, les regrets des accusés prononcés à la toute fin des débats n'ont visiblement pas convaincu les jurés professionnels de la Cour d'assises spéciale de Paris qui ont donc condamné hier soir les quatre femmes ayant participé à l'attentat manqué de Notre-Dame. 30 ans de prison pour Inès Madani et 25 ans pour Ornella Cunningham qui avait tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz. Des peines conformes aux réquisitions et jugées lourdes, Charlotte Piret, tant par la défense que par les parties civiles.
10 heures de délibéré dans ce qui était le premier verdict venant sanctionner le djihad au féminin. Premier commando de femmes condamnées pour leur passage à l'acte. Les peines sont sévères, alors prononcées, les têtes se baissent, les accusés accusent physiquement le coup. Mais pour maître Laurent Franck-Liénard, avocat de partie civile, ces lourdes peines sont simplement à la hauteur de la gravité des faits.
Je pense que la Cour a pris la mesure du crime, de cet attentat raté qui aurait fait des dizaines de morts s'il avait réussi. Et elle a pris la mesure également de cette agression contre mes clients fonctionnaires de police et de ce policier qui a été poignardé avec une véritable volonté de tuer au nom d'une idéologie délirante. Et la sanction lourde, c'est 30 années de réclusion pour Inès Madani, ça s'imposait.
Dans leur plaidoirie, les avocats de la principale accusée, Inès Madani, ont imploré la Cour de permettre à leur jeune cliente de pouvoir écrire quelques lignes de sa vie d'adulte. À l'issue de ce verdict, ils n'ont pas le sentiment d'avoir été entendus. Maître Laurent Pasquet-Marinacce.
C'est une décision qui est là pour faire un exemple, indiscutablement. Voilà, je veux dire, et qui est à mon sens déconnectée à la fois de la gravité des faits, pas de mort, pas de blessé, et de la personnalité de cette jeune femme. Voilà, c'est une, à mon avis une décision qui est extravagante, qui a dépassé la mesure. Voilà.
Et malgré l'absence de peine de sûreté pourtant réclamée dans le réquisitoire, plusieurs avocats de la défense ont d'ores et déjà annoncé envisager de faire appel de ce verdict.
Sarah Hervouet, qui avait poignardé un policier lors de la cavale, a été condamnée à 20 ans de prison. Samia Châtel, qui avait hébergé les jeunes femmes, a écopé de 4 ans de prison ferme. Quant à Rachid Kassim, propagandiste de l'État islamique qui a téléguidé les jeunes femmes, il a été condamné à la perpétuité. Il serait mort en Irak en 2017. Un verdict qui tombe au moment où la situation se dégrade au nord de la Syrie, laissant craindre une résurgence de l'État islamique. L'offensive turque a entraîné la libération de nombreux détenus dangereux. Membre du groupe djihadiste, a déclaré le chef du Pentagone. Donald Trump, de son côté, a soudain durci le ton, demandant à son homologue turc de cesser immédiatement ses attaques et annonçant des sanctions économiques, notamment contre l'acier turc. L'Union européenne, de son côté, semble impuissante, Marie-Pierre Véraud, à imposer un embargo sur les ventes d'armes à Ankara.
Difficile de maintenir l'unanimité des États européens au-delà d'une condamnation formelle des opérations militaires turques. Ce sont les limites de la diplomatie à 28. L'interdiction totale de vente d'armes à Ankara heurtait notamment le Royaume-Uni qui a mis en avant le statut d'allié de la Turquie au sein de l'OTAN. Les ministres des Affaires étrangères se sont donc juste engagés, selon le communiqué final, à adopter des positions nationales fermes concernant l'exportation d'armes vers la Turquie. De fait, après l'Allemagne et la France, l'Italie, qui fut le premier fournisseur d'Ankara l'an dernier, a annoncé qu'elle stopperait à son tour toute vente d'armes et de munitions. L'Espagne s'y dit prête, les Pays-Bas, la Finlande ou encore la Suède ont déjà souscrit à un tel embargo. Au final, il prend donc corps. Cela sera-t-il suffisant? C'est demandé la chef de la diplomatie européenne, Mogherini. Nous verrons. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a lui oublié toute langue de bois. Comme européen, a-t-il déclaré en marge de la réunion, nous ne sommes pas en mesure d'arrêter ça, il faut le dire franchement aux gens.
Et c'est dans ce contexte tendu que s'est déroulée donc hier soir la rencontre France-Turquie au Stade de France. Pas d'incident majeur, même si les footballeurs turcs ont de nouveau fait le salut militaire pour célébrer le but marqué. Une image qui n'a pas été montrée à la télévision. Sur le plan sportif, un partout donc, et les Bleus devront encore attendre pour se qualifier pour l'Euro 2020. Tout de suite, nous prenons la direction de Marseille pour rejoindre Olivier Martoc. Olivier, quatre détenus se sont évadés donc hier soir de la prison des Baumettes.
Oui, on a vraiment du mal à croire cette information, tant elle paraît inimaginable et dans les faits et dans son traitement depuis hier soir. Alors commençons par les faits. Au moment du retour du fourgon pénitentiaire aux Baumettes, les gardiens, comme c'est la procédure, comptent les détenus. Par rapport à la feuille de sortie, il en manque quatre. Interroger les autres détenus explique que lors du transfert entre le tribunal correctionnel et les Baumettes, en plein centre-ville de Marseille donc, à un arrêt, à un feu rouge, les quatre hommes auraient forcé la porte et bien que menottés deux par deux, seraient tout simplement descendus du fourgon. Il s'agit de détenus en prévention, interrogés par le magistrat dans des affaires relevant de la correctionnelle, association de malfaiteurs, proxénétisme ou extorsion, bref, des petits délinquants. Mais ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est qu'il n'y a que le syndicat FO des Baumettes de la prison des Baumettes, donc qui s'en fait l'écho depuis hier soir. Rien n'a filtré ni du côté de la justice, ni du côté de la police. En revanche, j'ai eu confirmation et des élus et des gardiens. Tous disent la même chose. Ce qui est incroyable, donc, c'est que personne d'autre ne réagisse.
Merci Olivier Martoc, en direct de Marseille ce matin pour Inter.
Il est 7h07, retour à présent sur le prix Nobel d'économie attribué hier à un trio de chercheurs, dont une chercheuse française.
Esther Duflo, qui a lancé un appel depuis les États-Unis où elle travaille sur la lutte contre la pauvreté. Esther Duflo, deuxième femme distinguée dans cette discipline et plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. Alors à 46 ans, elle espère que son exemple inspirera les jeunes générations de filles.
Il n'y a pas assez de femmes qui font de l'économie à tous les niveaux, que ce soit parmi les étudiants en thèse, parmi les jeunes professeurs, les professeurs plus âgés. Et c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Les sciences ont fait énormément de progrès pour faire entrer les femmes dans la carrière scientifique. Mais en économie, ça ne s'est pas produit, en partie parce que je ne pense pas qu'on avait réalisé jusqu'à assez récemment quelle était l'ampleur du problème et la nature du problème et finalement la perte énorme qu'il y avait pour le champ de ne pas avoir plus de femmes en économie. Et donc j'espère que, dans une certaine mesure, cette occasion contribuera, que je puisse servir peut-être un peu de modèle, de rôle modèle, que ça peut, c'est quelque chose qui peut se faire.
Et nous l'espérons. Propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. C'est officiel, Gérard Collomb sera le candidat de La République En Marche pour la présidence de la métropole de Lyon. L'ancien ministre de l'Intérieur a donc été préféré à David Kiemenfeld, qui lui n'a pas renoncé, une situation identique à celle de Paris. C'est cet après-midi que les députés doivent se prononcer sur le projet de loi bioéthique. Il sera adopté, puisque la plupart des élus de gauche voteront avec les marcheurs, et un tiers des élus, les Républicains, devraient s'abstenir ou même le voter. Le texte va maintenant être examiné par le Sénat. Un enfant sur trois dans le monde est mal nourri ou en surpoids. L'UNICEF publie ce matin un rapport de grande ampleur sur la malnutrition des moins de 5 ans. La sous-nutrition reste le principal problème et affecte la moitié des 676 millions d'enfants dans le monde. Mais donner à manger ne suffit plus, estime l'UNICEF. Il faut manger bien. Le surpoids et l'obésité touchent désormais des pays pauvres. Nouvelle mobilisation nationale des pompiers aujourd'hui. 3 mois qu'ils sont en grève administrative pour dénoncer les conditions de travail et le nombre croissant d'interventions non urgentes dans des contextes tendus. Les sapeurs-pompiers demandent donc des embauches et une hausse de la prime de feu. Les discussions n'ont pas suffisamment abouti, estiment les syndicats, qui appellent donc à manifester cet après-midi à Paris. Laurent Lafargue, pompier à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques, sera là avec une centaine de ses collègues. Il s'est confié à Mathilde Dehimi.
Laurent Lafargue partage le constat de tous ses collègues. Il intervient de plus en plus entre Bayonne, Anglette et Biarritz sur de la bobologie et autres missions qui ne nécessitent pas les services d'urgence.
Nous sommes comme toujours la dernière roue du carrosse. Dès qu'on ne sait plus vers qui se tourner, on se tourne vers les sapeurs-pompiers. Donc nous faisons pas mal d'interventions type des carences d'ambulance pour des personnes qui ne nécessitent pas un prompt secours. Sur le département, nous sommes à une augmentation de 130% de ce type d'intervention.
Professionnel depuis 17 ans, il gagne prime de feu et de responsabilité comprise 2060 euros net par mois. Moyenne d'âge de sa caserne, 44 ans. On a besoin de jeunes, dit le délégué du syndicat autonome des pompiers, et de faire des gardes moins longues.
À l'heure actuelle, nous travaillons 24 heures, payés 17 heures, avec une hausse d'intervention qui fait que le rythme est dur à tenir. Quand on a attaqué à 7 heures du matin et qu'on doit prendre un départ à 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures suivant les nuits, ça commence à peser sur les organismes, les réflexes, ça entraîne aussi des problèmes psychologiques, ça pèse sur la vie de famille, c'est pas du tout adapté à l'être humain.
Les négociations avancent au niveau départemental, un plan d'embauche de 42 pompiers est sur la table. Un bon début, estime Laurent Lafargue, mais il en faudrait 97. Il manifestera sur Paris par solidarité avec ses collègues.
Rassemblement donc à midi, place de la République, avec les hospitaliers et départ à 14h pour la place de la Nation. L'agression violente contre des policiers à Viry-Châtillon il y a 3 ans avait provoqué un mouvement de colère dans la police. 13 jeunes comparaissent à Paris d'aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne pour tentative de meurtre. Ils avaient lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de 2 voitures de police postées devant l'entrée principale de la cité de la Grande Borne. Bilan 4 policiers blessés, dont un très grièvement brûlé qui n'a toujours pas pu reprendre son travail. Il a le plus beau palmarès du rugby français. Guy Novès mit un terme à sa carrière 2 ans après avoir été licencié sans ménagement de son poste de sélectionneur national. Guy Novès, 65 ans, véritable dieu du stade toulousain, décrochant 10 boucliers de Brennus et 4 titres européens avec les Rouges et Noirs. Avant donc cette aventure ratée avec le 15 tricolore, Guy Novès qui tire sa révérence au moment où les Bleus s'apprêtent à disputer les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Guy Novès, le rugbyman qui aurait pu interpréter Rocky le boxeur, mais c'est la comédienne Clotilde Esme qui interprète Stallone sur la scène du 104 à Paris. Clotilde Esme a adapté la nouvelle d'Emmanuel Bernheim publiée en 2001 dans Le Monde. La scénariste et romancière avait imaginé le destin d'une jeune femme dont la vie est rythmée par les sorties des films de la star américaine. Un spectacle bouleversant. Stéphane Capron.
Il n'y a pas de ring sur scène, juste un rectangle blanc dessiné au sol, un micro sur pied pour Clotilde M. À ses côtés, le musicien Pascal Sangla lui donne la réplique et compose la musique en direct. Lise est assistante médicale, elle décide de reprendre ses études de médecine après avoir vu Rocky III au cinéma. La personnalité de Stallone provoque en elle un déclic. La lecture de la nouvelle d'Emmanuel Bernheim a provoqué aussi un choc chez Clotilde M.
Son émancipation, elle ne la doit qu'à elle-même parce qu'elle a découvert Stallone et elle s'identifie à lui. Quand même, une femme, un corps de femme qui s'identifie à un corps comme ça de Sylvester Stallone et de tous ses films, toute sa vie sera rythmée par les films de Stallone. Elle ira voir tous ses films, elle va voir de Rocky III à Copland. Au début, c'est un secret, elle va aller voir en cachette. Bon, après, le mari découvre le poteau rose. C'est une sorte de vie parallèle, c'est un magnifique récit sur le bonheur, sur le désir et sur la volonté que notre vie nous appartienne et qu'on n'en a qu'une. Et qui, voilà, elle est à vivre maintenant.
Stallone est un spectacle d'une beauté incroyable. Dans la mise en scène imaginée avec Fabien Gorjard, Clotilde M est très proche du public. On sent sa respiration, on voit ses yeux scintiller, ses larmes couler. C'est le spectacle le plus remuant de cette rentrée.
Clotilde M, donc, dans Stallone au 104 à Paris, dans le cadre du Festival d'automne, c'est jusqu'au 26 octobre, puis en tournée en France et notamment à Rennes au mois de novembre.
Merci Agnès Soubiran.